vas-y. Donc, accueillez avec douceur la parole plantée en vous et capable de vous sauver la vie. Devenez des artisans de la parole et pas seulement des auditeurs qui se berceraient d'illusions. Tels sont les mots de l'épître de Jacques qui nous engage à nous tenir dans une présence vigilante, une veille de chaque instant pour sortir du prêt-à-porter d'un langage qui dispense de porter soi-même le travail de la parole. Amis, frères et sœurs, recevez ici et maintenant la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre frère. Bienvenue à vous tous, à vous toutes, dans ce temple pour ce temps de culte. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent par le biais d'Internet ou des réseaux sociaux. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Bienvenue à David Cassan qui nous accompagne à l'orgue ce matin. Et bienvenue au cœur de l'oratoire sous la direction d'Alexandre Korovitch qui soutiendra les cantiques et, je vends la mèche, nous interprétera une œuvre de Gabriel Fauré. Prions ensemble. Éternel, Dieu de la vie, tu nous appelles et tu nous rassembles. Dans notre plus grande diversité, tu nous unis par le souffle de ton esprit. Nous te rendons grâce pour ta présence fidèle à nos côtés. Amen. Et pour ouvrir ce culte, nous prendrons maintenant le premier répond qui se situe au début du psautier français dans la liturgie et qui s'intitule « Bénissons Dieu, le seul sauveur ». Je vous invite à vous lever. Seigneur, nous rêvons toujours d'une maison pleine de rires et de chansons. Une maison qui sente bon le pain chaud et la lavande. Une maison où l'on est hâte de retourner. Qu'il fait bon vivre, Seigneur, quand on revient chez soi, libéré du besoin de se justifier, libéré de la comparaison avec les autres, libre d'être soi-même simplement devant toi. Qu'il fait bon vivre, Seigneur, quand on revient chez soi avec l'envie d'ouvrir grand ses portes et ses fenêtres, avec l'envie que les autres se sentent chez eux dans une maison pleine de rires et de chansons. Une maison où Jésus est choisi de demeurer parce qu'il passait par là et que la porte était ouverte. Je vous invite à poursuivre notre louange en prenant maintenant le chant du psaume 138, « Que tout mon cœur soit dans mon chant ». De ce psaume, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Prenez place. Écoutons comment Dieu nous indique un chemin pour vivre ensemble à travers cet extrait de la lettre de Paul aux Galates. Vous avez été appelés à être libres. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute loi se résume dans ce seul commandement : aime ton prochain comme toi-même. Prions ensemble. Éternel, nous voici devant toi et nous te confions tout ce qui nous fait souffrir. Nous essayons de faire le bien que nous aimons et nous faisons le mal que nous n'aimons pas. Nous essayons de vivre une vie honnête et nous sommes pris en défaut parce que nous ne savons pas réellement aimer. Nous ne volons pas, nous ne tuons pas, nous ne disons pas de faux témoignages. Mais au-dedans de nous, ce ne sont que sentiments négatifs, mensonges, médisances, préjugés et désirs de mort. Chacun connaît ses torts. Chacun connaît ses faiblesses. Tous ensemble, nos torts et nos faiblesses sont des montagnes. Éternel, viens à notre secours. Soulève ces montagnes et fais-les basculer dans la mer. Que nous soyons enfin délivrés de ces fautes pesantes. Que nous puissions aimer à notre tour et libérer celles et ceux que tu places dans notre vie. Amen. Accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Mon frère, ma sœur, mon ami, à celui qui croit que Dieu peut tout, que rien ne lui est impossible, à celui-là, Dieu accorde le pardon total et définitif, la paix et la joie. Parce que tu t'es reconnu devant Dieu comme incapable d'aimer, tu es maintenant sur le chemin de l'amour. Parce que tu t'es reconnu faible, tu es maintenant plus fort que les puissants de ce monde. Parce que tu t'es reconnu solitaire, il t'est donné une communauté d'hommes et de femmes, tes semblables. Alors, relève-toi et va dans la joie que Dieu te donne. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. La victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente en nous la foi. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Aujourd'hui, nous lirons dans la lettre de Jacques, au chapitre 3, les versets 1 à 13. Ne vous mettez pas tous à enseigner, mes frères. Vous savez avec quelle sévérité nous serons jugés, tant nous trébuchons tous. Si quelqu'un ne trébuche pas lorsqu'il parle, il est un homme parfait, capable de tenir en bride son corps entier. Si nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, menons aussi leur corps entier. Voyez aussi les bateaux. Si grands soient-ils et si rudes les vents qui les poussent, on les mène avec un tout petit gouvernail là où on veut aller, celui qui tient la barre. De même, la langue est un petit membre et se vante de grands effets. Voyez comme il faut peu de feu pour faire flamber une vaste forêt. La langue aussi est un feu, le monde du mal. La langue est installée parmi nos membres, elle qui souille le corps entier, qui embrase le cycle de la nature, qui est elle-même embrasée par la géhenne. Il n'est pas d'espèce aussi bien de bêtes fauves que d'oiseaux, aussi bien de reptiles que de poissons, que l'espèce humaine n'arrive à dompter. Mais la langue, nul homme ne peut la dompter. Fléau fluctuant, plein d'un poison mortel. Avec elle, nous bénissons le Seigneur et Père. Avec elle aussi, nous maudissons les hommes qui sont à l'image de Dieu. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne doit pas en être ainsi. La source produit-elle le doux et l'amer par le même orifice? Un figuier, mes frères, peut-il donner des olives ou une vigne des figues? Une source saline ne peut pas non plus donner d'eau douce. Qui est sage et intelligent parmi vous? Qu'il tire de sa bonne conduite la preuve que la sagesse emprunt ses actes de douceur. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous, éclaire-nous, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Dans le recueil Louange et prière, je vous invite à prendre maintenant le numéro 300. Et de ce numéro 300, T'aimer Jésus, te connaître, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous lever.
Savourer en paix ta grâce de
Prenez place. Prions ensemble. Ta parole traverse le temps, elle traverse l'histoire, elle traverse nos vies, traçant des chemins de lumière. Par elle, nous ne sommes plus perdus au gré du vent, ballottés dans les agitations et les incertitudes du présent. Car nous croyons que nos racines profondes et notre destination dernière sont en toi, en ton esprit qui souffle sur le monde du commencement jusqu'à la fin des temps. La grande souffrance des hommes, notre grande souffrance, c'est de t'avoir perdu ou de te perdre encore, ou de fermer à ta voix nos portes intérieures, de sorte que nous sommes privés de mémoire et d'espoir. Mais ta parole, si nous savons l'entendre, la garder, nous enracine dans les profondeurs du passé et lance vers l'avenir des passerelles d'espérance. Elle élargit nos cœurs et nos pensées en ouvrant nos vies à leur vraie dimension, leur vraie grandeur, leur vraie durée, celle de l'infini et de l'éternité. Éternel, ouvre nos portes intérieures pour que passe au plus profond de nous ton souffle créateur. Amen. Amis, frères et sœurs, je ne résiste pas à vous raconter une histoire qu'une très chère amie a partagée avec moi pas plus tard que cette semaine. Un professeur de théologie est en train de former un étudiant qui souhaite devenir pasteur. Et pour illustrer son cours, il lui propose ceci. Mon ami, aujourd'hui, vous irez sur le marché et vous me rapporterez la chose la plus belle. L'étudiant s'exécute, regarde un peu partout et rapporte une langue de bœuf. Le professeur, tout à fait surpris, lui pose cette question. Mais mon ami, qu'est-ce qui vous a pris ? Je vous avais dit de rapporter la chose la plus belle. Mais, monsieur le professeur, répond l'étudiant, mais cette langue est la plus belle des choses qui soient. Parce qu'avec elle, on peut dire des mots d'amour à sa bien-aimée, dire la beauté des êtres et la de la nature par la poésie, dire l'amitié qui unit des personnes. On peut féliciter, encourager, réconforter, soutenir. On peut prier, louer le Seigneur, s'émerveiller, enseigner, défendre quelqu'un ou défendre une cause, dire la vérité, conseiller, construire, être bienfaisant. Bon, oui, dit le professeur, bien vu. Bon, alors maintenant, vous retournez sur le marché et vous me rapportez la chose la plus laide qui soit. L'étudiant repart, regarde à nouveau un peu partout, cherche et finalement rapporte une langue de bœuf. Alors là, le professeur éclate devant son élève. Mais vous manquez d'imagination tout de même. Je vous ai dit de rapporter la chose la plus laide.
Ah, monsieur le professeur, cette langue est effectivement la plus laide des choses qui soient.
Parce qu'avec elle, on peut mentir, médire, on peut blesser, condamner, détruire, séparer, semer la zizanie, décourager, tromper, travestir la parole, dire de faux témoignages, être malfaisant. Et le professeur demeura perplexe devant tant de sagesse. C'est alors qu'il se souvint de cette parole contenue dans le livre des Proverbes. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Voilà donc cette histoire qui n'a pas cessé de me trotter dans la tête jusqu'à aujourd'hui. D'où cette invitation à lire ou à relire ce petit passage de la lettre de Jacques. Alors, on ne sait pas très bien dans quelle catégorie de livres on peut ranger cette lettre. Tout de même controversée, il faut le dire. Sans doute parce que Luther, Martin Luther, le réformateur, s'est étonné en son temps qu'on eût admis Jacques, l'épître de paille, dans le Nouveau Testament. Alors, on considère cette lettre de Jacques comme un peu moindre que les autres. Sans doute aussi parce qu'elle contient cette phrase qui choque souvent la bonne conscience protestante. La foi sans les œuvres est morte. Aïe, 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 Jacques n'y va pas par quatre chemins. Et probablement écrite à la fin du 1er siècle, cette lettre met en avant la dimension des œuvres comme pour équilibrer une interprétation trop large de la théologie paulinienne de la grâce, qui finirait par oublier la dimension éthique de cette grâce. Au fond, la lettre de Jacques appuie sur la nécessité d'un équilibre entre la foi et les actes du croyant. Les destinataires de cette lettre ne sont pas vraiment nommés. Nous lisons au tout début qu'elle est adressée aux 12 tribus vivant dans la dispersion, ce qui lui confère une destination, voire une dimension universelle. Certes, quand nous lisons l'intégralité de la lettre de Jacques, c'est vrai qu'elle dérange. Moi, je l'appelle volontiers le poil à gratter de l'Évangile. Sans doute parce qu'elle nous pousse dans nos retranchements. Au fond, cette lettre débusque ni plus ni moins les hypocrisies d'un christianisme qui, tout en se proclamant différent du monde, en adopte sans sourciller les convenances sociales. Et cela ne peut que nous parler dans notre contexte actuel. La lettre de Jacques est davantage une série d'exhortations qu'une lettre classique. Elle ressemble en cela au livre de sagesse du judaïsme, comme le livre de la sagesse ou celui du Siracide, avec des considérations liées à la vie quotidienne, avec des exemples concrets pris dans le contexte immédiat de l'auteur. Et plus largement, cette lettre fait écho à la prédication de Jésus contenue dans les chapitres 5, 6 et 7, de l'évangile de Matthieu, plus connu sous l'appellation du sermon sur la montagne. Mais dans le monde gréco-romain, on trouve ce genre d'écrit chez Sénèque, Épictète ou Plutarque, sous forme de diatribe. D'où, par exemple, les paroles assez dures de Jacques au sujet des riches. Pour lui, il n'y a aucune raison que les riches rejoignant une communauté chrétienne soient mieux accueillis et mieux considérés que les autres ou que les pauvres. Ce qui doit compter dans l'attitude chrétienne, c'est la compassion qui accompagne et sous-tend tous les actes concrets et en particulier ceux de l'entraide auprès des plus démunis. Et si les riches peuvent le faire, mais qu'ils le fassent, et mais qu'ils le fassent selon un engagement décisif et désintéressé, mais dans une réelle compassion, celle du cœur qui regarde l'autre comme un frère et non comme un subalterne.
plus on avance dans cette lettre, plus on s'aperçoit que l'auteur insiste sur la qualité de la vie communautaire. Et dans les derniers chapitres, l'auteur souligne l'importance du lien, de la parole. « Que votre oui soit oui », écrit-il, reprenant mot à mot un extrait du sermon sur la montagne. Et le chapitre 3 que nous avons lu à l'instant, oh, 13 versets seulement, hein, c'est beaucoup plus costaud après. Eh bien, ce chapitre 3 que nous venons d'entendre se développe autour du thème de la langue et de tous ses dangers, appelant selon la logique de toute la lettre à une cohérence entre le dire et le faire. Mais la lettre de Jacques n'est pas le seul texte biblique à mettre l'être humain en garde contre sa langue. Dans son livre « Petit mais costaud », intitulé « Grande langue, un pouvoir de vie ou de mort », Jean Ansaldi écrivait en guise d'introduction « Lorsqu'on ouvre une concordance des termes bibliques et qu'on cherche sur la rubrique « langue », on est surpris du grand nombre de versets qu'on y trouve. Et il s'agit bien sûr de la langue, organe de la parole, et non le lieu où se goûte la saveur des aliments. Et l'on y ajoute les mots, si on y ajoute les mots associés tels que « bouche » ou « lèvres », on arrive à des chiffres d'une importance rare. Et les textes bibliques louent les êtres humains qui maîtrisent leur bouche. Ils mettent en garde contre les langues enjôleuses, perverses, fourbes, dissimulées, qui ne parlent que dans le secret et jamais face à face. Et Jean Ansaldi d'ajouter, tout ce qui touche à la parole et donc la langue, la bouche ou les lèvres implique le noyau dur de la nature de l'homme, de Dieu et de l'Église. Mal utiliser sa langue revient à menacer l'humanité de l'homme, la divinité de Dieu et l'ecclésialité de l'Église. C'est probablement là que réside le secret de la surabondance biblique sur ce thème. Fin de citation. C'est pourquoi la lettre de Jacques nomme la langue un feu et en fait le domaine du mal. On serait tenté de penser que ce chapitre ne concerne que les enseignants, car il commence par mettre en garde contre le trop-plein d'enseignants dans l'Église. La fin de ce même chapitre montre que cela entraîne de la jalousie en développant un esprit de rivalité avec des luttes de pouvoir, entraînant la destruction du lien communautaire. Et tout en s'adressant à ses frères dans la communauté qui veulent devenir enseignants, Jacques s'inclut dans les maîtres en gardant le « nous ». Mais la lettre concerne plus largement toute personne au sein de la communauté. Pour argumenter ce qu'il va dire, Jacques utilise une série d'images classiques en provenance tant de la tradition biblique que de la culture moraliste grecque. Les images du cheval et du bateau présentes plutôt dans la philosophie antique évoquent avec optimisme la maîtrise de l'homme sur lui-même et sur le monde. L'image du feu renvoie à la culture biblique évoquant la colère de Dieu. La supériorité de l'homme sur les animaux qu'il peut dompter est une idée que l'on trouve à la fois dans la tradition biblique et dans la tradition hellénistique. Et tout cela, Jacques l'utilise pour accentuer le contraste suivant. La langue, elle, indomptable. Et la langue se trouve prise dans ce conflit incessant qui traverse la Bible, ce duo bénédiction-malédiction enraciné dès le Premier Testament. Cette tension perdure dans la lettre. D'un côté, la langue bénit le Seigneur et Père. Elle s'épanouit dans la prière et dans le culte. Et de l'autre, elle maudit les hommes qui sont à l'image de Dieu. cette expression faisant écho au livre de la Genèse, comme le lieu de la contradiction. On ne peut à la fois bénir Dieu et maudire les hommes qu'il a créés. Et Jacques développe cette contradiction en insistant sur le fait que la même source ne peut pas produire à la fois de l'eau douce et de l'eau salée, rappelant ainsi l'épisode de Marat où Moïse avait changé l'eau salée en eau potable. Il accentue son argumentation par les figues, les olives et la vigne qui sont autant de métaphores bibliques pour dire qu'un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Tout ce à quoi Jacques aspire, ce n'est pas de rechercher ici, par une morale naturelle, à retrouver une langue parfaite, mais simplement de mettre la parole en pratique. Tout en restant lucide sur la complexité de la réalité humaine. Et Jacques termine son argumentation dans la lignée de la tradition biblique en rappelant à ceux qui se veulent être des enseignants de la parole, que la sagesse se trouve ou se montre dans des actes empreints de douceur. Elle se reconnaît donc par une attitude existentielle cohérente. Alors, on aurait envie de dire, peut-être un peu trop vite d'ailleurs, « Tiens ta langue !» Mais ce texte est bien plus qu'une simple morale de bon sens. Il dévoile le danger du langage et le risque de dissociation entre la parole et la manière de vivre. Et il s'agit de l'articulation du dire et du faire. Ce n'est pas seulement un bon conseil, mais il pose plus largement la question de la dimension éthique. Comment être en vérité avec soi-même et avec les autres, malgré, ou plutôt avec, les risques de la parole? Jacques dit tout simplement que la langue est dangereuse parce qu'on ne la maîtrise pas. Et on sait la force destructrice d'une rumeur, d'une calomnie, d'un mensonge, mais aussi d'un non-dit ou d'un double langage. Cela rejoint la complexité de l'être humain. Et cette complexité jaillit déjà du livre de la Genèse où au premier chapitre, le monde est créé par la parole de Dieu, tout en rappelant que nous devons la dangerosité de la langue à la parole travestie dès le chapitre 3 de la Genèse, ouvrant ainsi la brèche par laquelle le mal s'est introduit dans le monde. Mais inlassablement, et tout au long de l'histoire des hommes avec Dieu, il y aura une parole divine qui restaure, qui pardonne, qui libère. Une parole pour laquelle un homme, Jésus de Nazareth, donnera sa vie pour ne pas renier la valeur salvatrice de cette parole. Alors, peut-être pouvons-nous recevoir cet extrait de la lettre de Jacques comme l'occasion de retrouver l'importance de notre parole humaine et de la remettre en conscience au cœur de notre humanité. De prendre le temps de nommer ses risques, ses difficultés et de la situer à sa vraie place, en face d'une parole divine, celle-là. Sans lui conférer aucun pouvoir magique, mais cette parole divine peut apporter une guérison sur nos dysfonctionnements verbaux qui ne sont au fond que le reflet de nos dysfonctionnements personnels et relationnels. Alors à travers cette lettre, amis, frères et sœurs, voilà ce qui nous est demandé. Oh, rassurez-vous, pas du tout de devenir parfait, mais simplement d'être plus humain. Et pour cela, nous sommes appelés à ancrer toute notre personne, et à commencer par notre propre langue, dans notre être intérieur, c'est-à-dire notre être profond. Nous sommes invités en particulier dans la foi qui est la nôtre et dont nous nous réclamons à ressourcer nos vies, non seulement dans la Bible, ce livre à travers lequel Dieu me parle, comme l'écrit si justement André Gounel dans son dernier livre « Théologie du protestantisme », mais aussi et surtout dans la prière de laquelle jaillissent la bénédiction et la douceur, source de la vraie sagesse. Alors, je le crois, nous pourrons célébrer joyeusement la conversion de notre cœur et la restauration de toutes nos relations. Amen. Alors je vais vous inviter à prendre les cantiques, maintenant louanges et prières. Et nous chanterons le numéro 195. Et je remercie David de nous le jouer en entier une première fois, parce qu'il n'est pas forcément connu de tous. Et ensuite, nous reprendrons ce cantique, nous chanterons les strophes 1, 3 et 4.
Bonjour à tous. Au nom du Conseil presbytéral, quelques annonces. Tout d'abord, désolé pour le bruit au début sur les micros, sur les interférences. Sachez que l'avantage, c'est que maintenant, nous savons maîtriser les interférences. Sachez que les interférences sont liées à des patrouilles qui nous protègent, des patrouilles des services de l'État. Donc, c'est important de savoir que les services de l'État nous protègent. Et voilà, donc par moment, les fréquences se rencontrent. Sur les services de l'État et sur la République et sur la façon dont nous sommes reconnaissants à la République, vous savez que cette semaine, une loi très importante est passée, importante pour nous et qui était l'objet de notre dernière feuille rose, qui est la loi contre les thérapies de conversion, ce qu'on appelle les thérapies de conversion, et qui touche malheureusement aussi des gens en France et dans nos églises. Et c'était important de le signaler. Également sur les querelles en ce moment, et nous en avons parlé au Conseil presbytéral, sur de savoir si à l'oratoire du Louvre, les lois de la République priment. La réponse est bien évidemment, à l'oratoire du Louvre, les lois de la République priment. Et quand tu dis, Agnès, qu'il faut mettre en pratique la parole, eh ben, nous essayons de le faire avec une loi qui est puis passé, comme disait un des membres du Conseil presbytéral, si cette loi passe, ça veut dire aussi qu'en France, ça reconnaît le fait que les thérapies de conversion existent. Et pratiquer la parole, c'est aussi faire attention à nos issues de secours et s'assurer que les issues de secours sont toujours libres à l'oratoire du Louvre pour que le plus fragile puisse s'échapper en cas de besoin. Cette semaine, le corps, mercredi, Agnès, à nouveau, je ne sais pas si vous allez parler de la langue, avec le groupe des jeunes, le thème sera le corps. C'est ça, Agnès ?
Oui, je suppose. Alors, peut-être qu'on va aller un petit peu plus loin, enfin, je ne sais pas.
Vous allez redescendre ?
Oui, en fait.
Également jeudi, Agnès, la pause spirituelle, jeudi midi, comme tous les jeudis. Le cœur, un grand merci. Nous avons rappelé dans la newsletter, mais vous êtes encore timide, vous paroissiens, que vous pouvez venir chanter tous les samedis matins, pardon, une fois par mois, le samedi matin une fois par mois, la veille de la venue du cœur, de 10h à 11h15, venir répéter avec le cœur les psaumes du dimanche. C'est à la maison presbytérale, ne soyez pas timide. On ne vous demandera pas si vous êtes soprano ou alto, et si on vous le demande, vous répondrez « non, je suis paroissien ». Voilà, donc vraiment, venez, Alexandre, tout le cœur vous accueillera, grand volontiers, et puis ça permettra aussi pour vous de mieux les connaître, parce qu'ils sont venus en grand nombre aujourd'hui, et vraiment un grand merci. Également, toujours sur la musique, mardi, Théophile, mardi soir sur la musique religieuse, et le premier concert spirituel de la saison, et j'allais dire depuis très longtemps, les très anciens à l'Oratoire du Louvre ont connu les concerts spirituels. Je vais passer la parole à Béatrice qui va vous expliquer samedi à 16h.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être ici ce matin et particulièrement avec ce que nous avons entendu du cœur. Je suis d'autant plus portée à vous annoncer ce concert spirituel puisque la musique est extrêmement importante pour tout ce qui nous concerne ici dans ce lieu de prière et de parole. Donc samedi à 16h, alors peut-être Théophile parlera de la musique religieuse. Est-ce que ça existe ou pas ? Est-ce qu'il y a des musiques qui sont religieuses ou bien est-ce que le religieux vient se placer dans la musique ? C'est une vraie question. Et puis aussi ce qu'en dit la Bible, qu'est-ce qu'en disent les réformateurs, qu'est-ce que disent certains théologiens de cette question et certains philosophes. Donc venez nombreux mardi soir à 20h à la maison presbytérale pour Théophile. Donc samedi à 16h, nous aurons le concert spirituel d'octobre que nous avons préparé avec deux grands artistes, donc Léonide Karev et Claire Leroy, qui vont venir, donc un organiste et une soprane, qui vont venir nous proposer de la musique en fonction d'un thème particulier que nous nous sommes donné pour ce concert spirituel. Nous avons réfléchi à ce qu'était ce mois d'octobre, cet automne qui est un automne particulier, puisque comme je le disais à Léonide, nous sommes dans un automne qui est comme un printemps, c'est-à-dire que nous sommes en train de reprendre partout avec effervescence toutes les activités, tout ce que nous avions laissé tomber, tout ce que nous avions été obligés de mettre en stand-by pendant tout le temps de la pandémie. Les musiciens sont très sensibles à ça puisqu'ils ont été obligés d'arrêter tous leurs concerts. Et là, tout d'un coup, on voit que tout se bouscule et les agendas se remplissent à toute vitesse. Et donc, cette effervescence et cette magnifique vie qui reprend un peu partout nous a inspiré ce concert donc en signe d'espérance. Et nous l'avons intitulé « Octobre, l'or précieux de la vie ». Voilà, alors j'espère que vous serez nombreux à ce premier concert spirituel. La tradition des concerts spirituels est très ancienne, puisqu'on en trouve au XVIIe siècle, où on faisait déjà des concerts spirituels en Allemagne, et où on avait justement une méditation, et donc j'aurai la joie avec Agnès de vous proposer ce temps de méditation dans le concert spirituel. Merci.
Donc samedi 16h, vous pouvez emmener qui vous voulez, c'est entièrement gratuit. Vraiment, amenez vos amis pour ce premier concert spirituel de l'année, samedi 16h. Également, Gérard me signale, et notre trésorière, Agnès, qu'il y a une petite erreur de date sur la prédication qui est à la sortie, donc la prédication d'Agnès qui est à la sortie est bien la bonne, même si la date n'est pas la bonne. Voilà. C'est le temps de l'offrande. Merci à vous tous et bon dimanche.
Unissons-nous dans la prière les uns pour les autres. Éternel, Dieu de la vie, partout il y a de nombreuses souffrances, des souffrances physiques, des souffrances psychiques, des blessures qui proviennent de ce que, à un moment, nous n'avons pas su tenir notre langue alors qu'il fallait se taire, et que nous nous sommes tus alors qu'il fallait parler. Nous te présentons les personnes que nous faisons souffrir par notre manque de discernement, nos paroles discriminatoires. Mais nous présentons également nos propres souffrances alors que nous nous sentons injustement jugés. Nous te prions pour celles et ceux qui demandent le secours de notre prière. Nous te les nommons dans le profond de nos cœurs. Et nous te demandons du fond du cœur, de mettre à nouveau dans nos relations familiales, professionnelles, ecclésiales, associatives, la douceur de ton amour, la joie de ton pardon, l'enthousiasme de ta parole. Et nous rassemblons notre prière dans celle que Jésus le Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et recevons encore la bénédiction de la part du Seigneur. Mon frère, ma sœur, mon ami, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel porte sur toi son regard et te donne sa paix. Amen.